France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Tu casses, tu répares, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. Gabriel Attal resserre sa formule choc dans un grand discours sur la violence des adolescents, avec des sanctions pour les parents défaillants et de nouvelles pistes pour les mineurs en termes de justice, sur lesquelles on interrogera Kim Reflet. C'est la présidente du syndicat de la magistrature qui a été juge pour enfants. Les 100 jours à Matignon, quel bilan pour ce Premier ministre le plus jeune de la 5e République, qui se dit lui-même en sursis, avec un style bien à lui qu'on essaiera de décrypter. Et puis, Michelin généralise le salaire décent, un SMIC à pratiquement 40 000 euros bruts annuels pour un Parisien, au lieu des 21 000 prévus par la loi, coup de com' ou pas. Qu'est-ce qu'un salaire décent d'ailleurs? On se posera toutes ces questions avec les informés de ce soir, qui sont Guillaume Gralet, rédacteur en chef au Point, Claire Planchard, rédactrice en chef Information Générale du groupe Ebra, et Bruno Cotterêts, chercheur CNRS au CEVIPOF et prof à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous.
Merci.
Plus de 40 minutes de discours pour Gabriel Attal. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque, dit le Premier ministre, qui présentait donc les pistes étudiées par le gouvernement pour lutter contre les violences des mineurs. Discours prononcé, vous le savez, à Viry-Châtillon, ville endeuillée récemment par la mort de Chemseddine, 15 ans, passé à tabac par des adolescents à peine plus âgés que lui. Un mot revient sans cesse, autorité, et surtout sa formule choc, donc entendue déjà lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée.
Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui. Je souhaite, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de politique générale, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général. Je suis favorable à ce que les jeunes qui perturbent le plus gravement les cours se voient sanctionnés sur leur brevet, leur CAP ou leur bac. Faut-il ? Et pouvons-nous mettre en place une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans, de sorte qu'ils aient à répondre de leurs actes immédiatement comme les majeurs et qu'ils soient sanctionnés immédiatement comme des majeurs? J'ai chargé le garde des Sceaux d'y réfléchir et d'y travailler. Le travail de concertation des prochaines semaines permettra de trancher ce débat.
Et je salue Kim Reflet. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature et vous avez été juge pour enfants 3 ans, tout juste après la dernière réforme de la justice pénale pour mineurs. Gabriel Attal sort donc du chapeau plusieurs réponses judiciaires nouvelles qui, si j'ai bien compris, choquent plutôt le syndicat de la magistrature, et je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi. Quand on parle de permettre une comparution immédiate dès 16 ans, pourquoi déjà ne le fait-on pas jusqu'ici avant 18 ans? Quelles sont les raisons?
Les raisons, c'est que la procédure de comparution immédiate, c'est une procédure très rapide, on dit même expéditive. Ce n'est pas du tout des principes de procédure pénale qui correspondent à ce qu'on doit faire pour bien juger les mineurs. Pour bien juger un mineur, on a besoin de prendre du temps de connaître sa situation. Quand un mineur commet des actes de délinquance, c'est généralement, on va retrouver des difficultés éducatives. Et donc, tout ça, on a besoin de le savoir et de le connaître pour prononcer une peine adaptée, une mesure éducative en priorité et une peine adaptée. Et donc, ce n'est pas compatible avec le fait de juger quelqu'un 48 heures après la commission de faits.
Dans le droit pénal des mineurs, il y a aussi une excuse de minorité qui permet de réduire de moitié les peines infligées et qui pourrait être remise en cause, atténuée en tout cas. Ça vous choque ?
Alors, en fait, on ne comprend pas du tout l'utilité de cette proposition. Donc après, il faudra voir comment elle dans le détail ce que ça recouvre. Mais l'excuse de minorité, c'est un principe constitutionnel. Enfin, ça répond à un principe constitutionnel qui est l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. C'est pas pour rien. C'est parce que les mineurs, ce ne sont pas des adultes. Hein, ils n'ont pas les mêmes capacités de discernement. Ce sont des personnes qu'on considère dans notre société comme immatures. Donc, ils ont une responsabilité pénale atténuée et ça correspond aussi à des engagements internationaux de la France. On est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant qui prévoit cette excuse de minorité. Donc, on ne peut pas la supprimer. En revanche, on a déjà la possibilité, quand on est juge des enfants, de l'écarter. Donc, il y a aucune nécessité de toucher à cette excuse de minorité. Et on entend surtout l'idée de, voilà, de laisser penser que les mineurs ne seraient pas réprimés suffisamment sévèrement, ce qui n'est absolument pas démontré par la pratique.
Alors, c'était ma troisième question. Est-ce que justement l'arsenal aujourd'hui pour les mineurs est suffisant? S'il fallait l'élargir, modifier certaines choses, vous penseriez à quoi?
Alors, l'arsenal, il est suffisant dans le principe, enfin dans les outils dont on dispose quand on est jugé d'enfant. Il y a un certain nombre de mesures éducatives qui existent, et vous savez que pour sanctionner des mineurs, on doit avant tout prononcer des mesures éducatives en priorité, et on a également un arsenal répressif qui existe, donc des peines qui vont du stage au travail d'intérêt général à la peine d'emprisonnement. Donc on a déjà énormément d'outils qui existe, et s'il y avait quelque chose à changer, ce n'est pas dans la loi en fait et la multiplication des outils, mais ce sont les moyens, et notamment les moyens éducatifs.
Question de moyens, les informer. Cette priorité, il y a dans l'arsenal et dans les propositions du Premier ministre également toute une partie pour sanctionner les parents. Mais il y a, et c'est sans doute aussi une réponse à la droite et aussi à l'extrême droite qui réclame toutes ces mesures-là. Comment vous regardez cette partie-là, en tout cas des annonces de ce matin, Claire Blanchard?
Alors, on a une impression d'une avalanche de propositions. En fait, il y a beaucoup d'idées qui sont mises au débat, hein, puisqu'en fait, il y a une concertation de 8 semaines qui va s'ouvrir à la demande du président de la République, une sorte de Grenelle des violences impliquant des mineurs, à l'image de ce qui a été fait sur les violences faites aux femmes. Donc, peut-être que certaines sont que des ballons d'essai, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ça va un peu tous azimuts. Et dans le domaine scolaire, certains syndicats ont aussi dit attention, certaines choses qui ont été annoncées existent déjà, sont déjà possibles.
Comme
par exemple, on signe aujourd'hui au collège un règlement intérieur, il y a des engagements, il y a des choses quand même qui sont déjà faites avec les parents. Voilà,
le fait clairement. De se lever aussi, quand le prof arrive, beaucoup de profs disent « mais ça se fait déjà ».
Voilà, certains syndicats, alors j'ai pas pu le vérifier, me disent qu'on peut noter déjà dans un dossier scolaire certains problèmes comportementaux qui existaient. Alors, il veut le pousser, est-ce que ça puisse être inscrit dans Parcoursup? Je sais pas si c'est à ce point-là, mais ça serait pas totalement nouveau. Enfin, voilà, et beaucoup également dans l'éducation disent, oui, mais quels moyens? On parle d'une scolarisation des adolescents, notamment dans les collèges les plus en difficulté, de 8h à 18h tous les jours de la semaine. Bon, on a beaucoup parlé des groupes de niveau, de la problématique de l'encadrement, hein, des professeurs, des recrutements. Enfin donc, il y a énormément de questions, je trouve, qui se posent sur cette avalanche de propositions qui sont destinées à rassurer, mais qui finalement, avec ce discours assez guerrier de la contre-attaque, de la mobilisation, et finalement assez anxiogène aussi, il va falloir voir, voilà, cette concertation de 2 mois, sur quoi elle va aboutir. Et c'est un gros, gros travail là qui s'ouvre.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Guillaume Gralet est là pour le point, Claire Blanchard pour le groupe Ebra, Bruno Cotrès pour le CEVIPOF et Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature. Alors parmi les réactions, on va écouter du côté des chefs d'établissement, le secrétaire général du SNPDEN, UNSA, le premier syndicat des chefs d'établissement, Bruno Bobkiewicz. Pour lui, on parle trop de sanctions et pas assez d'accompagnement.
L'école ne peut pas être rendue responsable de tout et on ne peut pas faire supporter à l'école tous les maux de la société. Je vois beaucoup d'annonces autour des sanctions et vraiment de l'idée de sanctionner les élèves, voire même les parents en cas de difficulté. Je vois peu d'annonces autour de l'accompagnement et de la prévention. Et nous, en tant qu'éducateurs, on sait bien que les deux aspects sont importants. Donc pas d'opposition de principe à l'idée de sanctions, mais en amont, que faire pour éviter toutes ces situations et quel rôle l'école peut faire? Et ça, c'est plus d'humain, plus d'encadrement pour pouvoir mieux accompagner ces jeunes qui sont en difficulté et qui posent un certain nombre de difficultés.
On revient encore et toujours, Guillaume Gralet, aux moyens.
Oui, aux moyens. Et puis on a l'impression effectivement qu'il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions. Certaines vont dans le bon sens, mais effectivement qui vont laisser pour beaucoup, eh bien, les professeurs, vous l'avez dit, mais également les parents un tout petit peu désemparés. Si on parle par exemple des écrans, en fait, on parle d'une nouvelle commission d'enquête avec une nouvelle proposition de loi sur le numérique. Tout ça, ça existe déjà. Il y a déjà eu une commission d'enquête sénatoriale qui avait été menée par Claude Malhuret, qui était extrêmement sévère à l'égard de TikTok, avec notamment des risques d'espionnage, des manipulation des cerveaux.
Mais avec le sentiment que ces commissions d'enquête ne débouchent pas vraiment sur des mesures. Il faut reconnaître que c'est extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué, mais on a l'impression peut-être que les États-Unis sont beaucoup plus concrets, en tout cas sur la menace TikTok. On a...
Avec quel genre avec quoi? Des restrictions?
Avec des restrictions, savoir exactement où vont les données. Là, on ne sait pas du tout. Il y a cette apparition de TikTok Lite. Hein, c'est un nouveau service qui devrait permettre de récompenser les utilisateurs les plus actifs de TikTok qui devrait faire son apparition et qui ça inquiète énormément la Commission européenne. Là, on a l'impression qu'en France, on est toujours un tout petit peu en retard. Donc, comment vont pouvoir faire les parents ou les professeurs? Ce soir, il y a aussi la projection d'un film qui s'appelle Amal avec Jawad Ralib qui a été interviewé sur le site du Point. Et ce professeur, alors tout ça se passe en Belgique, mais il y a beaucoup de professeurs qui ressentent les mêmes choses. Jawad Ralib, le réalisateur, parle d'enseignants qui ont la peur au ventre, qui n'osent plus aborder certains sujets de peur de devenir de cible. Tout ça, ça reste très ouvert.
Bruno Cotterêts, il y a un sujet dont s'est emparé Gabriel Attal, qui a fait un séjour, on en a beaucoup parlé, puis on en reparlera tout à l'heure, mais au ministère de l'Éducation, donc c'est son sujet, mais il y a un sujet de la violence des adolescents qui est perçu comme une urgence réellement par l'opinion.
Oui, je pense que l'opinion est marquée bien sûr par les événements dramatiques, tragiques qui se sont déroulés dans le pays ces dernières semaines. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal dans la communication du chef du gouvernement. Premier paradoxe, c'est très urgent, mais c'est une équipe gouvernementale qui est au pouvoir depuis 7 ans. Donc une sorte d'oxymore dans cette situation. C'est une communication qui aborde des problèmes très importants dont les solutions sont des solutions au fond sur des années qui sont des données systémiques, structurelles de sociétés modernes, compliquées avec des interactions partout qui ne se résument pas simplement à serrer un tour de vis sur les sanctions. Il y a un autre paradoxe qui est d'annoncer toute une gamme de nouvelles sanctions, même si au fond c'est des sanctions qui potentiellement existent déjà, mais sans qu'on parle pas seulement de l'accompagnement, mais aussi qu'on parle des droits de ceux qui sont éligibles aux sanctions, parce que si on serre la vis dans une société démocratique sur les sanctions, on est quand même obligé en même temps de parler des droits de la défense. Celui qui devient, par exemple, les parents dits défaillants, comment vont-ils? Quels sont les mécanismes démocratiques qui leur permettent de se défendre? Vont-ils être aidés? C'est souvent des familles qui vont pas très très bien au plan socio-économique. Non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur dit vous êtes défaillants et bim. Ou voilà. Donc ça pose tellement de problèmes, ça soulève tellement de dimensions très 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 difficiles qui ne peuvent se résoudre que sur un très long terme, qui est un peu un contraste avec 8 semaines, pas un jour de plus. Donc voilà, il y a toute une série comme ça, un petit peu de contradictions, pas de contradictions, mais le mot est pas correct, mais toute une série, on va dire, de dimensions un peu, avec des dimensions qui sont compliquées, et par ailleurs, ça fait un ensemble d'une communication qui est aussi pas mal anxiogène.
Mmh. Kim Reflet, quand Gabriel Attal dit qu'il y a une addiction d'une partie de nos adolescents à la violence, alors il cite plusieurs chiffres. Il dit 2 fois plus d'adolescents impliqués pour coups et blessures, 4 fois plus pour trafic de drogue et 7 fois plus dans les vols avec armes que dans la population générale. C'est des chiffres qui sont que vous confirmez? C'est une tendance en fait.
Je suis pas du tout en mesure de confirmer ces chiffres. En revanche, moi, les chiffres dont je dispose et qui sont les chiffres du ministère de la Justice déconstruisent cette idée d'une jeunesse de plus en plus violente. Et je rappelle quand même que s'il y a ce débat en ce moment, c'est à l'occasion d'un fait divers extrêmement grave qui est tout à fait exceptionnel et qui n'est pas représentatif de la délinquance des mineurs. Quand on parle de délinquance des mineurs, quand on est un juge des enfants, de quoi parle-t-on? D'atteinte aux biens principalement, puisque c'est 50% de la délinquance des mineurs, c'est-à-dire une délinquance d'appropriation, et on vole des scooters, on vole des téléphones. Voilà, c'est ça le quotidien des juges des enfants, son TATS. Et d'autre part, les chiffres du ministère de la Justice montrent plutôt une stagnation, voire même une diminution des faits, en tout cas poursuivis et sanctionnés. Donc moi, je ne sais pas je ne sais pas quels sont ces chiffres, mais praticienne du droit dans les tribunaux, Ce que je pouvais dire, c'est que ça ne confirme pas ce qui est évoqué comme un phénomène très, très massif.
Si vous êtes, je ne sais pas si vous ferez partie des personnes consultées dans ces 8 semaines, mais si c'est le cas, si je comprends bien, vous insisterez surtout sur l'urgence de ne pas faire ces nouvelles réformes un peu dans l'urgence.
On insistera, bien sûr, on espère être entendu, et on insistera sur le volet éducatif. On aurait pu reprendre vraiment à notre compte les propos du proviseur, qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire on utilise toujours l'arme répressive pour répondre à une difficulté, encore faut-il qu'elle soit confirmée. Soit il est toujours bien de lutter contre la violence, on utilise l'arme répressive là où nous on estime que ce qui fait défaut ce sont les outils éducatifs de soutien à la parentalité. Quand un parent est défaillant, c'est-à-dire ne tient pas ses gosses, pour reprendre l'expression du ministre de la Justice, en général ce qu'il faut c'est non pas le sanctionner mais plutôt lui apporter des aides à la parentalité. Et donc c'est ça qui fait défaut, et nous c'est ça qu'on soutiendra bien sûr.
C'est quoi ce sont des mesures et des pistes qui sont aussi présentées à quelques semaines des européennes. Il y a de la politique aussi, disons-le, là-dedans, Claire Planchard.
Oui, tout à fait. On se souvient qu'après les émeutes, la tentative d'Elisabeth Borne avait été d'essayer de dresser un diagnostic de fond des dimensions très multiples du phénomène, essayer d'aller au fond. On a entendu aussi là de cette volonté de ne pas prendre de lois faits divers comme cette surréaction. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a quand même ces déclarations, et notamment cette expression de la fin de la culture de l'excuse, enfin le fait de dire qu'il faut arrêter de chercher des bonnes raisons pour que des parents soient dépassés, parce que souvent défaillants, est-ce que c'est défaillant, dépassé? On a beaucoup parlé des familles monoparentales, des femmes qui étaient dans des situations où elles ont des emplois le matin très tôt, le soir très tard, très loin, avec des enfants à charge, et à dire quand on a un adolescent de 17 ans qui fait 1m80, comment on lui dit de rentrer à la maison le soir? Enfin, on en a déjà discuté au moment des émeutes, mais enfin, on sait que c'est un problème sociologique, économique, très très profond. Là, on a l'impression que le gouvernement fait écho un peu à ce qu'on a entendu dans les mots de Marine Le Pen. On veut des actes, ça suffit, des mesures concrètes. Et ça va effectivement en contradiction avec tout ce que les professionnels de l'éducation, de la justice, eux disent et voient. C'est que non, effectivement, là, on a une séquence dramatique de faits divers qui ont effectivement horrifié la France. Mais la réalité, c'est pas que ça. La délinquance des mineurs, ce n'est pas cette ultra-violence qui reste très minoritaire. Et qu'il faut amener d'autres réponses. On dirait que le gouvernement, effectivement, à l'approche des européennes, vient donner des gages à LR, puisqu'il faisait partie des principaux demandeurs de cette retour sur l'excuse de minorité pour les mineurs. Et puis, une politique plus droitière. Mais ça, c'est un contexte global ces dernières semaines.
Ça va nous amener à notre deuxième partie. Je vais remercier Kim Reflet, présidente du syndicat de la magistrature. Merci pour tous ces éclairages.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Claire Planchard du groupe Ebra, Guillaume Gralet du Point, Bruno Cotrès du Cevipof. Alors ces 100 jours de Gabriel Attal, c'est aujourd'hui. Bruno Cotrès, déjà, cette période des 100 jours concerne d'habitude le président de la République. Est-ce que ça vous surprend, vous, que le Premier ministre ait voulu comme ça marquer le coup en estampillant ce déplacement Viry-Châtillon, clairement déplacement des 100 jours?
Oui, un peu, effectivement.
Ça dit quoi de ce jeune Premier ministre ?
Bon, d'abord, les 100 jours, c'est un peu un mythe de notre vie politique. C'est souvent évoqué comme la période, au fond, comme au moment de Napoléon. Voilà, on va renverser la table en 100 jours.
Alors, je ne sais pas si c'est Napoléon, parce que je disais aussi que c'était un peu remis en question, mais c'était Roosevelt.
Voilà, bon. Mais en tout cas.
Delano Roosevelt.
Voilà, en tout cas.
Après le crack de 1929, qui a dit, on lance le New Deal, voilà, et jugez-moi sur 100 jours.
Voilà. On voit en tout cas, chez le Premier ministre, une volonté de montrer qu'il est dans l'efficacité depuis le début. Il a multiplié aujourd'hui les références à l'idée selon laquelle, il avait déjà commencé à impulser des choses, il y avait déjà des premiers résultats. Donc l'idée d'un rendez-vous des 100 jours, c'est effectivement pour lui de montrer qu'il n'est pas éclipsé par l'omniprésence du chef de l'État sur les dimensions de politique internationale. Et c'est vrai que le début de la campagne européenne, puisque Gabriel Attal était missionné, comme nous disait-on, l'arme anti-Bardella, on a vu que le chef de l'État, avec la guerre en Ukraine, il a au fond cadré la campagne des élections européennes fortement sur cette question-là. Et on voyait mal pour le moment Gabriel Attal, quel rôle il allait tenir dans cette campagne comme animateur de la majorité présidentielle. Et puis ben, on voit là effectivement une opération qui est une opération très spectaculaire. Je me demande même d'une certaine manière si ça ne va pas marquer tellement fortement le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ce surgissement d'aujourd'hui de Gabriel Attal avec une telle avalanche d'annonces.
À ce point.
Que derrière, il va être peut-être difficile de dire, mais il y a d'autres priorités de l'action publique, il y a des choses plus urgentes peut-être. Donc ça commence à devenir difficile pour le chef de l'État, qui a dit nous sommes en 1938, maintenant le Premier ministre qui dit il y a une terrible crise dans la société française. Ça va peut-être un peu plus compliqué derrière de dire, tiens, mais au fait, il y avait la question du climat, qui était, rappelons-nous, la priorité des priorités au moment de la réélection d'Emmanuel Macron. Il y a d'autres priorités. Voilà, c'est tellement marquant, cette prise de parole d'aujourd'hui, une réappropriation par le chef du gouvernement de son domaine à lui, sa marque de fabrique à lui, que peut-être ça peut avoir des effets un peu inattendus sur la suite du mandat d'Emmanuel Macron.
Guillaume Grallet, il a donné un entretien à Mathilde Sirot chez vous au Point, oui, en rentrant du Canada il y a, oui, quelques jours, où il dit notamment qu'il a conscience d'être en sursis.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les 100 prochains jours vont
être
bons.
C'est pour ça qu'il frappe très fort pour marquer.
Ouais, il frappe, mais peut-être pas à la bonne porte en réalité. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les 100 prochains jours vont être extrêmement compliqués, notamment avec la dette, les agences de notation, le budget qui est loin d'être accepté, hein, m'expliquait Mathilde. Et puis, c'est un petit peu dommage parce que lorsqu'on voit tous les choix qui ont été faits, hein, vous le disiez tout à l'heure, il y a plus de 7 ans maintenant, on a une dette abyssale. Lorsqu'on regarde le reportage de Kevin Badeau qui est du Portugal a montré les choix complètement différents dans un dossier de Béatrice Parrino, eh bien, on voit que on a l'impression que ça, c'est des moulins à paroles qui fonctionnent. Et puis surtout, ça nous empêche, on parlait d'éducation tout à l'heure, de nous intéresser aux vrais problèmes, l'environnement bien sûr, mais aussi l'intelligence artificielle. On a vu un autre rapport, parce que décidément, on a énormément de rapports qui s'accumulent, sur l'intelligence artificielle, tout ce qu'on devrait faire pour se former différentes années de notre vie, des métiers absolument fabuleux. On fait, dans le numéro de cette semaine, le portrait d'un Indien de classe moyenne qui est en train de s'imposer aux États-Unis. Il y a énormément de métiers dont on ne parle jamais en France. On a l'impression que c'est des sujets tabous.
Bon, mais on va pas lui enlever le fait que l'école...
L'autorité, c'est important, mais il faudrait peut-être, voilà, aussi nous donner un peu des perspectives.
Des sujets. Claire Planchard, comment vous jugez-vous ces 3 mois de Gabriel Attal?
Et quand il a été nommé, on se souvient bien, c'était une situation très très difficile. Il y avait eu les débats notamment sur la loi immigration, voilà, qui avait été une vraie épreuve. Et il y avait cette idée, c'était le terme utilisé même par Emmanuel Macron, de régénérer ce quinquennat. On était à mi-parcours, il y a les européennes qui arrivent, il fallait, voilà, redonner une impulsion. Et on se rend bien compte que ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu beaucoup de crises depuis qu'il est arrivé. Il a dû gérer la crise de l'agriculture. Il y a eu cette séquence-là de faits divers. Enfin, il y a vraiment l'éducation, énormément de choses. Et aujourd'hui, on voit effectivement un Gabriel Attal qui va sur ses thèmes de prédilection, hein, donc l'autorité et l'éducation, et qui essaye d'appuyer sur son style et ses atouts, hein, qui sont ses talents de communication, on peut pas lui ôter, ce dynamisme et puis cette méthode. C'est-à-dire, comme disait Bruno Cotteret, c'est-à-dire qu'il a ce pragmatisme qui consiste, voilà, à identifier les problèmes, trouver des solutions, faire un suivi. Ça marchait quand il était dans un ministère où il avait quelque part toute la ligne de décision. Tout. Là, c'est vrai, quand on voit l'ampleur du sujet et les problématiques, la complexité des problématiques, ça paraît plus compliqué. Et puis, vous parliez de sursis, effectivement, il est dans une situation où on voit bien que l'autre pari de sa nomination, c'était quand même d'endiguer la dynamique du Rassemblement national. L'échec, pour le moment, est avéré, puisque l'écart se creuse avec la liste, voilà, du RN dans les sondages.
Le vote n'a pas eu lieu, hein, mais bon.
Bien sûr, non, mais à ce stade, voilà, ouais. En tout cas, la dynamique n'a pas été inversé, vous faites bien préciser, et peut-être encore pire.
Est-ce que franchement, en 100 jours, c'était faisable? C'était peut-être la promesse de départ qui était un peu excessive, mais en 100 jours, est-ce qu'on peut lui reprocher? Peut-être pas.
Non, mais en tout cas, ça reste à prouver, ouais, qu'il ait cette capacité à le faire, et il commence à être talonné par la liste Glucksmann. Ouais. Et là, alors, ce serait une vraie catastrophe.
Il y a un sujet sur lequel
Glucksmann, ouais, arrivait deuxième
aux européennes.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Claire Planchard du groupe Ebra, rédactrice en chef information générale, Guillaume Grallet, rédacteur en chef au Point, et Bruno Cotteret, chercheur CNRS au CEVIPOF. On parle des 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Bruno Cotteret, l'image de dans l'opinion, elle évolue comment? Il est parti avec une très haute cote, hein, en sortant du ministère de l'Éducation. Où ça en est? Où il en est?
Il a d'abord baissé dans les cotes de popularité. Il est au-dessus du chef de l'État, toujours. Mais il a quand même baissé. Il a une tendance baissière maintenant depuis plusieurs semaines, quand même. L'image d'un jeune Premier ministre, elle lui est acquise, par définition. Donc ça ne sera pas vraiment remis en cause, j'imagine. Par contre, c'est vrai que là, ce qu'il a fait aujourd'hui va être sans aucun doute quelque chose qui va poser sur lui une image dont il lui sera très difficile de se défaire ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a fait ce qui est parfois bien en communication, mais peut-être aussi un peu trop tôt pour lui, qui est de figer une image. Il est définitivement, d'une certaine manière, celui qui veut incarner l'autorité. Tu défies l'autorité, on va t'apprendre à la respecter. Ça, c'est une phrase qui va beaucoup le suivre, qui va beaucoup.
Et en
le
même temps, c'est ce qu'il souhaite imprimer.
Mais un personnage politique aussi jeune, qui a donc une très longue carrière politique potentiellement devant lui, figé aussi fortement, aussi jeune.
C'est pas une image claire, au moins
ça. Oui, c'est une image claire, c'est l'avantage. Par contre, c'est le désavantage de cette clarté, c'est que justement, c'est très maintenant très identifié comme étant sa marque de fabrique. Or, une carrière politique, c'est consiste souvent à montrer qu'on a aussi d'autres facettes. Donc, il va falloir que le Premier ministre montre sans doute ses autres facettes.
Le couple exécutif, qu'est-ce qu'on peut en observer? C'est toujours la grande question et on n'est pas dans le secret des face-à-face. Mais est-ce qu'il fonctionne de votre point de vue, Guillaume Grallet?
D'après Mathilde, qui a passé du temps.
Mathilde Sirot, exactement.
Donc, c'est compliqué.
Qui a passé du temps, vous le dites, on disait au Canada.
Mais qui suit bien tout l'exécutif et la vie politique française en général. Elle m'expliquait que c'est vraiment très compliqué entre eux et que finalement, Gabriel Attal a peu de marge de manœuvre. Mais quand même, une chose positive quand même, c'est son voyage au Québec. On le voit bien dans le reportage, ça s'est super bien passé. Ça lui a donné un shoot d'adrénaline. Il a multiplié les selfies. Puis il y a le fameux rendez-vous des JO où là aussi, on va avoir l'image d'un Premier ministre jeune. Et peut-être, à défaut de réussir les européennes, il pourra réussir les JO.
Est-ce qu'il sera visible? Parce que c'est beaucoup Emmanuel Macron qui va prendre la lumière, je présume, sur ces JO.
Normalement, c'est plus le chef de l'État, effectivement. Le Premier ministre, là où il peut capter la lumière, où il y a un enjeu quand même très important pour Gabriel Attal, c'est de montrer qu'en tant que chef du gouvernement, toute la logistique, l'organisation, la sécurité, ça a bien fonctionné. La sécurité, ça va mettre en première ligne le ministre de l'Intérieur, mais lui, il est sous l'autorité du Premier ministre. Donc, le Premier ministre, là, il a un très gros enjeu qui peut... sur lequel il peut capitaliser si effectivement c'est une très grande réussite reconnue comme telle internationalement. Et donc là, effectivement, il faudra qu'il arrive à capter un peu de cette lumière, qu'en tant que chef du gouvernement, il a fait en sorte que ça soit une grande réussite. Parce que le chef de l'État, par définition, va prendre la lumière au milieu d'autres chefs d'État et de gouvernement.
Vous parlez des autres poids lourds du gouvernement. C'était une des questions quand il est arrivé, de se dire, ce jeune Premier ministre avec des Bruno Le Maire, des Gérald Darmanin, finalement, il installe, bon an mal an, une véritable autorité, pour y revenir encore, à la tête de ce gouvernement, non, Claire Planchard?
Dans cette séquence, effectivement, je pense que ça participe à la fois de son affirmation dans son duo avec le chef de l'État, qui était son mentor. Enfin voilà, il est là aussi pour incarner ce visage originel du macronisme, cette jeunesse, ce pragmatisme, le fait de parler cash. Donc il y a une vraie, je pense, complicité, cette difficulté quand même qu'il a à émerger, puisqu'on a vu Emmanuel Macron par sa conférence de presse juste avant son discours de politique générale, puis avec ce cadrage très fort sur la campagne européenne, qui prend beaucoup la lumière, et lui qui reste dans son ombre. Donc là, effectivement, cette séquence de communication, on voit qu'il va affirmer son style, et puis c'est à la fois sur le fond et sur la forme. Et puis aussi, on voit bien que c'est aussi un message donné notamment à Gérald Darmanin, qui était un des... On a bien vu au départ la difficulté à s'affirmer face à ce poids lourd qui se voyait lui aussi à Matignon. Même chose face à Bruno Le Maire, qui a publié un livre qu'il a démenti être un programme ou une candidature à la présidentielle. Mais bon, on sent bien, voilà. Donc c'est qu'il est dans cette position très difficile où il a un gouvernement où il n'y a pas de successeur au président de la République. Donc tout le monde est potentiellement candidat. Tous ses ministres poids lourds ont le regard vers la présidentielle et il faut qu'il mène cette barque. Et c'est vrai que pour un Premier ministre, c'est une séquence très difficile parce que, comme on a dit, c'est un poste où on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en termes de popularité. C'est très difficile de rebondir après un tel poste. Après, il jouit malgré tout d'une popularité bien plus importante que d'autres premiers ministres au même niveau, enfin, au même terme de longévité, à la même, la même longévité. Il a un vrai bagage et on l'a vu à l'étranger. Il passe très bien et à chaque interview qu'il donne ou voilà, il sent que voilà, on lui pose souvent cette question dans les médias à l'étranger. La présidentielle lui dit, moi, j'en ai jamais parlé. Donc il y a cette petite dynamique sur laquelle il peut capitaliser. C'est vrai, cette jeunesse fait de lui forcément un candidat potentiel, voilà, pour 2027. Mais il est dans une situation délicate.
Ton entretien à CBS, effectivement, au Canada, ça lui a été dit, ça a été présenté, il a été présenté comme ça, comme le successeur potentiel d'Emmanuel Macron, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est effectivement un piège, hein, que ça arrive un petit peu trop vite, mais pour l'instant, il s'en défend, il veut pas en parler, en tout cas, il en parle pas, il veut surtout pas rentrer là-dedans. Ce qui va être intéressant, effectivement, notre échéance, hein, si on regarde les...
Il pensait beaucoup, n'en parlait jamais.
Voilà. Hein non, les prochaines échéances, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est effectivement le budget de la France, avec, on voit bien, une croissance qui est moins forte que celle qu'on voulait. Et là, on va voir si il arrive à prendre des mesures impopulaires, y compris avec les syndicats.
Alors, pour le coup, il a commencé à mettre sur la table l'assurance chômage, enfin, Bruno Cotterêts. Là aussi, il est dans ce positionnement plutôt droitier, plutôt dur, plutôt autoritaire.
Oui, il y a une très forte cohérence.
De l'homme qui n'a pas peur de...
Voilà, il y a une très forte cohérence dans, au fond, sa communication et le contenu qu'il donne. C'est vrai que pour le moment, on disait... Et on peut toujours le dire, l'autorité, l'efficacité, ce sont des instruments. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un projet de société. Progressivement, on voit que s'affirment effectivement différentes dimensions qui donnent un peu plus de densité, qui est cette idée selon laquelle la société, d'après le Premier ministre, ne peut donner le meilleur de ce qu'elle peut donner, de la protection, du service public, que pour autant que les règles du jeu soient respectées. Et donc il y a une très forte cohérence qui est de dire ceux qui ne recherchent pas activement un emploi, ceux qui occupent un logement social alors qu'ils auraient les moyens d'occuper un autre logement dans le parc privé du logement plutôt que dans le logement social, ceux qui défient l'autorité. Et voilà, ça commence à faire une histoire qui est une histoire cohérente, qui rappelle par certains aspects toute proportion gardée, et il faut toujours éviter les comparaisons trop faciles et trop hâtives, qui peut rappeler par certains aspects une dimension un peu Sarko, qui est le fait de parler cash, d'affirmer, comme Nicolas Sarkozy disait une époque, je suis de droite et où est le problème? On a là, je suis pour l'autorité, où est le problème? Et donc, on voit que, de ce point de vue-là, ça commence à raconter une histoire, effectivement, avec différentes facettes, toujours, avec toujours la même trame narrative, qui est que ceux qui ne respectent pas les règles du jeu ont vocation à recevoir la sanction ou à recevoir, au fond, à perdre des privilèges qu'ils auraient indûment occupés.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Guillaume Gral et du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotterêts du Cevipof. On parle donc de ce salaire décent, c'est le terme du patron de Michelin qui a une idée très précise de ce qu'est un salaire décent pour Florent Ménégaud. Ça signifie permettre à une famille de deux adultes plus deux enfants de se loger, de se nourrir, de partir en vacances et même de mettre un peu d'argent de côté. Et ce sera désormais la règle pour les 132 000 salariés dans le monde, 17 000 en France. On écoute Florent Ménégaud qui était l'invité du 17-20 France Info.
L'objectif, c'est d'avoir des personnes qui soient totalement engagées dans ce qu'elles font et donc qu'elles aient un niveau de salaire qui leur permette d'avoir le confort mental de pouvoir se projeter dans le projet de l'entreprise. C'est ça l'objectif le plus profond. Nous sommes donnés 2 ans et au 1er janvier 2024, tous les salariés de Michelin, tous, partout dans le monde, sont au minimum à ce niveau de salaire décent.
Voilà, salaire décent. En clair, au lieu des 21 000 annuels bruts, qui sont le SMIC classique, eux, ils généralisent autour de 40 000 bruts pour ceux qui vivent à Paris, 25 000 à Clermont-Ferrand. Ça doit faire rêver quand même pas mal de gens, Guillaume Gralet.
Oui, et puis surtout, on s'intéresse au monde entier. On voit qu'on s'intéresse à un groupe mondial, hein, plus de 130 000 salariés. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est presque salvateur après la semaine qu'on a eue, les débats sans fin sur le salaire de Carlos Tavares, qui effectivement a fait beaucoup de choses chez Stellantis, mais qu'on avait bien du mal à expliquer. Là, on a l'impression...
36 millions et demi d'euros.
Voilà.
De rémunération globale, hein. On n'est pas que sur le salaire.
Exactement. Alors, c'est-à-dire que, voilà, on compare toujours aux footballeurs, mais on a un peu du mal à justifier ce salaire. Là, on a l'impression d'avoir un groupe responsable extrêmement citoyen. Et puis, surtout plus que le salaire, moi, en regardant un tout petit peu, en parlant avec les personnes de Michelin, on s'aperçoit surtout qu'il y a un plan d'accompagnement de formation. Et j'ai envie de dire que c'est presque aussi, voire plus important. Tout à l'heure, on parlait, alors c'est ma petite marotte, mais d'intelligence artificielle qui bouleverse de plus en plus de métiers, qui fait énormément peur. Et en fait, ce plan de formation global, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les salariés.
Alors attendez, le rapport avec l'intelligence artificielle.
Eh ben, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle bouleverse tous les métiers. On voit, cette semaine, par exemple, il y a eu Boston Dynamics, le créateur américain, vous savez, des robots chiens qui font peur à tout le monde, eh bien, a annoncé un robot humanoïde. Les robots humanoïdes, ils ont été aussi lancés par Sam Altman de OpenAI ou encore Elon Musk. Et on voit certains sont déployés dans des usines. Les usines BMW, un autre fabricant automobile, un fabricant du secteur aux États-Unis. Ces robots humanoïdes vont prendre des métiers de plus en plus de salariés. On va multiplier ces robots qui sont très agiles avec certains plus de mémoire, plus d'intelligence. Tout ça, ça fait peur dans les entreprises industrielles. Et avoir des plans de formation qui vont permettre de garder le contrôle sur la machine, je trouve ça super intéressant.
Claire Planchard, alors Michelin a toujours été une entreprise, j'ai envie de dire, un peu paternaliste et particulière, on va dire.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu je ne sais pas qu'il renoue avec ce paternalisme social des fondateurs, mais quand on va visiter, je ne sais pas, vous êtes déjà allé dans les anciennes usines Michelin, il y a un musée. Et en fait, et on voit effectivement qu'il y avait des dispensaires, des écoles, des parcs de maisons. En fait, il y avait cette idée que pour fidéliser ces ouvriers qui formaient, ces salariés, il fallait aussi pouvoir être un employeur social. Et là, c'est vrai qu'on parle d'essence. Alors, c'est un terme qui est pas économique, mais en fait, le terme anglais, c'est living wage. Donc, c'est un salaire qui permet de vivre correctement. Donc, comme vous le disiez, l'idée, c'est de l'adapter, en fait, à des situations dans différents pays. En fait, finalement, ça concernait assez peu de salariés, notamment en France, qui étaient sous ce seuil. Mais c'est de se dire, au moment où on dit qu'on a besoin de pouvoir vivre de son travail, c'est-à-dire c'est pas seulement la force publique, c'est-à-dire qu'il doit baisser les loyers, encadrer les loyers ou lutter contre l'inflation, mais que les employeurs ont aussi un devoir de donner un salaire qui permet dans un pays de faire vivre une famille avec des enfants et d'épargner un petit peu pour faire face à des coups durs. Enfin voilà, c'est une définition assez complexe. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que cette notion qui a été définie par l'ONU il y a un paquet d'années avait été très difficile à mettre en œuvre et qu'il y a une ONG, donc Fair Wage, qui a accompagné Michelin pour chiffrer ce salaire, parce qu'en fait c'est pas les premiers, hein. Il y a aussi Danone, il y a aussi L'Oréal qui a voulu mettre en place ces mesures d'accompagnement social. Donc souvent cette volonté d'accompagner les salariés, c'était plus de la protection sociale, mais un salaire, définir quel était ce salaire, ça demande un travail très très précis, puisqu'on a vu les écarts entre ce que ça peut être dans des pays du sud où il y a des revenus bien plus faibles. Et donc voilà, c'est de dimensionner ça, de le mettre en musique en 2 ans, c'est quand même très 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 rapide. Et effectivement, je pense que pour Michelin, qui a eu des difficultés sociales, mais qui a aussi des difficultés à recruter, avec un turnover qui a fortement augmenté.
Ça, c'est un élément déterminant.
Exactement, c'est une façon de fidéliser, puisque notamment ce que je lisais, c'est que leur plan d'accompagnement, notamment en cas de décès d'un salarié pour la famille survivante, ou d'accompagnement des enfants jusqu'à leur étude supérieure, c'est pour n'importe quelle que soit la longueur, la période de travail dans l'entreprise, ce sera un droit acquis. Je trouve que c'est vraiment une volonté de dire venez chez nous et vous pourrez pour vos jours vieux,
oui, jours,
avoir c'est quand même fort.
Le confort mental, c'est l'expression m'a marqué, moi, Florent Ménégo dit, ça leur donne le confort mental, Bruno Cotteresse, pour adhérer complètement au projet de l'entreprise.
Ouais, il a tout compris, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, cette dimension de confort mental, de bien-être, le sentiment de se sentir bien, c'est capital. Au fond, c'est la mère de toutes les batailles, hein, dans un pays qui est tellement miné par le sentiment de crainte de l'avenir, de défiance dans les autres, d'un profondément anxiogène. C'est absolument fondamental. C'est très important parce que nous, quand on regarde ce que les Françaises, les Français disent dans les enquêtes, les grosses enquêtes qu'on réalise à Sciences Po, on voit d'abord qu'il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose à un moment donné. Les générations des anciens disent aujourd'hui, beaucoup d'actifs, ils pouvaient faire tout le projet de vie entier dans une boîte. Ils pouvaient commencer à un niveau qui était à un niveau d'ouvrier, et progressivement gravir les échelons. Et c'était un projet, on faisait rentrer sa famille dans la même boîte. Effectivement, c'était ce projet de ces entreprises qui faisait... Alors, effectivement, il y avait une dimension de paternalisme, évidemment, d'un capitalisme à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'était des entreprises qui avaient une forme d'adéquation aussi avec une commune, qui étaient des acteurs centraux d'un marché de l'emploi local. On pouvait gravir les échelons, effectivement, de bénéficier... d'un accompagnement. Et ce qui est très intéressant.
Dans notre siècle, hein, tout ça.
Voilà. Mais ce qui est, voilà, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, quand on regarde ce que disent les personnes qu'on interroge, on voit qu'il y a un sentiment, effectivement, de plus pouvoir vivre dignement de son salaire. C'est-à-dire les gens ont le sentiment qu'ils ont coché toutes les cases. On leur a dit, tu travailles bien à l'école, tu vas avoir un bel avenir. On leur dit, t'es un bon citoyen, tout va bien se passer. Et puis les gens disent, mais j'ai travaillé à l'école, je suis un bon citoyen. Et puis à un moment donné, tout est bloqué. La progression dans l'échelle des rémunérations est rapidement bloquée. On a le sentiment qu'il n'y a plus de possibilités à partir d'un certain âge. Donc voilà, ce sont des enjeux très, très, très importants pour redonner de la confiance et redonner des perspectives positives à un pays qui en manque terriblement, terriblement.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bon.
On parle de salaire décent avec Bruno Cotrez du CVPOF, Claire Planchard du groupe EBRA, Guillaume Grallet du Point. Alors, est-ce transposable à toutes les entreprises que fait Michelin ? Pas convaincu, Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc. Écoutez, il était sur France Info ce matin.
Je pense pas qu'on puisse généraliser parce qu'il parle que de salaire, il parle pas de dividendes, il parle pas du reste. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'effets de présentation.
Vous avez la dent dure déjà.
Dans la réponse. Si on part de sujets ponctuels, on a des réponses ponctuelles. Ça fait pas la justice sociale, ça fait pas la vision globale.
Voilà, coup de com', il dit Michel-Édouard Leclerc, qui s'y connaît en fait.
Il est pas mauvais dans ce domaine-là, c'est sûr. Là où peut-être il soulève un point intéressant, c'est que si c'était un projet, on va dire si c'était une question à poser sur l'ensemble de la société française, c'est vrai que c'est plus exactement le même débat à ce moment-là. Voilà, si on devait dire, mais au fond, pourquoi dans notre société, seuls ceux qui travaillent chez Michelin vont pouvoir avoir droit à ça, que ça crée un sentiment que selon le secteur où on est, selon l'entreprise où on n'est pas traité de la même manière et que ça devienne une perspective sur laquelle il faudrait sans doute réfléchir au niveau de l'ensemble de la société. C'est vrai que ça, c'est un changement de braquet et c'est plus du tout le même sujet.
Sur des groupes de taille équivalente, vous citiez tout à l'heure Claire Planchard, quelques exemples où des réflexions ont été menées. À ce stade, ça n'a abouti nulle part.
Mais c'est surtout que c'est au niveau mondial. Enfin, encore une fois, c'est la proportion de salariés français qui n'avaient pas ce salaire entre guillemets décent était quand même vraiment minime. En fait, c'est surtout pour des pays où
95% des salariés monde chez Michelin, ils sont déjà. Hein, là.
Oui.
Donc, ce que je disais
tout à l'heure, c'est qu'en fait, effectivement, il parle de justice sociale, mais dans ce cas-là, évidemment, le débat sur la smicardisation, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment par le Premier ministre qui en avait fait un de ses chevals de bataille. L'idée, c'est que aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, le SMIC étant le seul salaire qui est indexé sur l'inflation, il a énormément progressé. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent rattrapés. En fait, donc on a beaucoup de gens qui étaient embauchés légèrement au-dessus du SMIC, et puis ils n'ont pas eu d'augmentation. Et aujourd'hui, ils ont le sentiment de plafonner. Niveau, ouais. Ils n'ont pas le sentiment vade. Et effectivement, l'inflation aujourd'hui est une véritable problématique. On en a énormément parlé cette année pour se loger, pour manger, pour se chauffer. Enfin voilà, c'est un vrai vrai sujet. Donc évidemment que ça peut pas se substituer à la politique publique. Enfin voilà, il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient prises. On parlait de l'encadrer les loyers. Enfin, on voit l'inflation quand on entend 40 000 euros à Paris. Pourquoi ? Parce que le logement à Paris a atteint des sommets. Enfin, région parisienne, des sommets. C'est évidemment pas du ressort de l'entreprise, mais que certaines entreprises aient un discours différent. En fait, se posent la question du bien-être de leurs salariés, ne soit pas que dans une logique de compression des coûts, de se dire qu'en fait, on a aussi socialement à gagner à ce que les gens puissent vivre correctement, voilà, sans que on soit sur des salaires délirants. Je trouve ça intéressant parce que ça vient changer voilà, un discours qui est un peu ambiant, voilà, et qui va aller que dans un sens, ouais, en fait.
Ça va être compliqué pour certains chefs d'entreprise d'expliquer pourquoi c'est ce qui est possible chez Michelin n'est pas chez eux.
Oui, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est vraiment une mesure qui va dans le bon sens. Et effectivement, peut-être pour raccorder avec le débat qu'on a eu au début de l'émission, on aimerait avoir ce type de coup de pouce pour les professeurs français, les instituteurs, qui sont quand même beaucoup moins bien payés que dans le reste de l'Europe. Et ça, peut-être, ça amoindrirait un tout petit peu le malaise, mais en tout cas, de l'éducation. Mais en tout cas, pour revenir à cette initiative, moi je la trouve vraiment vertueuse, parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe, les mesures qui sont annoncées, elles concernent aussi bien les salariés brésiliens, les salariés chinois de cette belle réussite, c'est-à-dire qu'on considère le facteur humain comme une ressource et pas uniquement comme un coût.
Les PME, clairement, c'est beaucoup plus complexe, en revanche, on est d'accord, Bruno Cotterêts, ou est-ce que c'est...
Oui, sans aucun doute, c'est vrai que la puissance d'un groupe comme Michelin, c'est un tout autre univers. Là où ça peut vraiment être intéressant, c'est l'effet de ricochet, effectivement, ce que disait Claire Planchard, c'est l'effet de ricochet que ça peut avoir sur les débats d'une politique publique plus audacieuse sur l'augmentation de salaire en France, une politique s'appliquant à tous les secteurs. C'est vrai qu'il y a ce problème en France. Beaucoup de Françaises, de Françaises ne comprennent pas, au fond, pourquoi ils vivent dans un pays riche et ils galèrent. Donc, c'est quand même une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes se posent, avec un sentiment qu'à un moment donné, où l'ascenseur social n'a pas bien fonctionné, où la rémunération des efforts n'est pas correctement faite. Nous, ce sont des questions qu'on pose dans nos enquêtes au CVPOF, et on voit que les gens adhèrent profondément à l'idée du travail. On n'est pas du tout un pays où les gens ont envie de ne pas travailler, pas du tout. Mais par contre, ils considèrent que les récompenses ne sont pas au rendez-vous, qu'on ne rétribue pas assez les efforts qu'ils ont faits, le mérite qu'ils ont eu dans la vie, et qu'à un moment donné, effectivement, on est rattrapé par tout un tas de variables, un secteur professionnel qui a des coûts qui ne lui permettent pas d'augmenter fortement les salaires, un âge où on dit, ben voilà, il faut penser aux plus jeunes maintenant. Voilà, il y a tout un tas de problèmes comme ça, et on a ce sentiment dominant qui est, on n'est pas récompensé.
On jette un coup d'œil sur les unes, c'est la tradition, les quotidiens de l'Est de la France, du groupe Ebra, Claire Planchard, la une demain.
Et dans le dossier de l'information générale, on reviendra évidemment sur le plan du gouvernement pour lutter contre la violence chez les adolescents.
Et à la une du point, Guillaume Gralet.
Eh ben, on s'intéresse aux milliards du Hezbollah, et en fait on a des super enquêtes, notamment Guillaume Perrier qui a fait le tour de l'Amérique latine, et on voit des liens même avec la cocaïne, c'est assez surprenant.
À la une donc du point demain. Merci également à Bruno Cotterêts. Demain, les informés, c'est à 9h, Jean-Rémy Baudot et Renaud Délier. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.